Le club des têtes au carré en direct de la plus grande librairie éphémère de France, puisque nous sommes au Salon du Livre, donc à la porte de Versailles à Paris. Bonjour à tous et bonjour au public ici présent et qui nous a rejoints nombreux sur le stand de France Inter. Littérature, science, climat, voilà les ingrédients de ce club aujourd'hui, avec un prix Goncourt qui s'intéresse à un héros de la mécanique quantique, un thriller neuroscientifique dans le plus grand centre de recherche et puis des solutions complètement folles pour lutter contre le changement climatique. Sujet donc qui nous réunissent cet après-midi et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos questions et vos messages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et puis le climat également à la une de la science, Axel Villard, dans le cadre de notre journée spéciale sur France Inter.
Oui Mathieu, avec l'ouverture d'un lab de création environnementale en plein cœur de Paris pour accompagner le prochain film de Luc Jacquet, La glace et le ciel. On en parle dans un instant avec les questions du public et les tweetos. Le mot-clé l'attaque.
Violaine Bellet est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Jérôme Ferrari, Sébastien Boller et Valérie Laramé de Tannenberg, bonjour.
Bonjour.
À tous les trois, bienvenue. Jérôme Ferrari, 3 ans après votre prix Goncourt avec le Sermon de la Chute de Rome, vous publiez Le Principe, c'est un roman aux éditions Actes Sud qui s'intéresse à Werner Heisenberg, à la fois prix Nobel de physique, mais également collaborateur du régime nazi sur la bombe atomique. Alors Heisenberg, Jérôme Ferrari, un pur salaud ou un scientifique génial, s'il fallait choisir entre les deux?
Non, je choisis pas. Je pense pas que ce soit le rôle d'un roman de trancher là-dessus. Il y a une polémique historique absolument ouverte. Donc moi, en tant qu'individu, j'ai pas l'impression que Heisenberg ait grand-chose à se reprocher, mais j'ai pas voulu que cette conviction personnelle apparaisse trop clairement dans le roman. Je préfère le flou.
Oui, et c'est plus complexe que ça autour de son personnage. Hein. Et plutôt attachant pour vous, si j'en juge évidemment par ce roman. Sébastien Boller, heureux de vous accueillir ici au Salon du Livre en tant qu'auteur de roman. Vous publiez un thriller Neuroland chez Robert Laffont dans lequel vous imaginez l'instrument le plus puissant pour lire en direct dans les pensées. Donc c'est toute la transparence du cerveau qui apparaît dans ce livre et qui est au cœur de l'intrigue.
Voilà, avec un enjeu, on va peut-être en reparler, qui est que faire pour obtenir des renseignements en situation de crise. Hein. On vit dans un contexte de menace terroriste aiguë, et le pire qui pourrait arriver, ce serait effectivement un cerveau qui pose des bombes dans des endroits inconnus et qui refuse de dire où et qui serait protégé par le droit de la détention, le droit de la garde à vue. Donc comment extraire ces informations du cerveau? Donc j'ai voulu faire le point sur l'état d'avancée des neurosciences pour lire dans le cerveau des gens, et on est assez loin.
Et il y a un outil en tout cas qui arrive et qui est proposé dans ce livre. Et puis Valérie de Tannenberg, vous allez recevoir tout à l'heure le prix étudiant de l'essai de la région Île-de-France pour votre ouvrage écrit avec Bertrand Guillaume, Scénario d'avenir, les futurs possibles du climat et de la technologie. Et dans ce livre, vous évoquez entre autres le recours à la géo-ingénierie. Ce sont des technologies imaginées par les laboratoires des grandes puissances pour lutter contre les changements du réchauffement climatique. Et là, apparemment, il n'y a aucune limite à l'imagination non plus. Hein.
Absolument aucune, c'est comme pour les auteurs. L'idée, c'est que nous avons recensé avec mon co-auteur Bertrand Guillaume de l'UTT un certain nombre de recherches qui sont menées à la fois par des laboratoires militaires, mais aussi par des laboratoires privés, parfois financés par des milliardaires comme Bill Gates, et qui ont pour ambition finalement de développer des techniques et des technologies qui permettraient de compenser le réchauffement en refroidissant le climat, en renvoyant une partie du spectre solaire vers le cosmos profond, voire en utilisant des lasers très puissant pour ioniser l'espace.
Et là, on n'est pas dans la science-fiction. Ce sont des projets, en tout cas, pour l'instant, sur le papier, mais qui sont en train de germer dans la tête de ces personnes.
Absolument.
On se retrouve dans un instant pour en parler avec les messages des auditeurs. À la une de la science, un lab pour sensibiliser et mobiliser autour des enjeux du réchauffement climatique.
Je commence à être optimiste. Je crois que l'homme va se redresser. L'homme va faire l'effort et va trouver la solidarité qui mènera l'humanité, les gens qui vivent sur la planète, vers un autre type de comportement.
Voilà le climat dans le cadre de cette journée spéciale sur France Inter. Et puis à l'instant, la voix du glaciologue Claude Laurius. Un lab, on va vous expliquer ce que c'est, pour sensibiliser autour des enjeux du réchauffement climatique. Et vous en êtes à l'origine, Luc Jacquet, avec votre association Wild Touch. Bonjour à vous, vous êtes en direct de Washington, sous la neige d'ailleurs, je crois.
Absolument, Mathieu, bonjour.
Vous êtes réalisateur, on vous connaît pour La Marche de l'Empereur, entre autres, et vous préparez donc en ce moment un nouveau long métrage autour du climatologue Claude Lorius. Et puis à nos côtés ici au Salon du Livre, Audrey Tondre, bonjour. Vous êtes la responsable pour Wild Touch. Alors Audrey, justement, un lab qui va ouvrir, qui a ouvert d'ailleurs à deux pas de la place de la Bastille à Paris, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors un lab, c'est un espace de création collaboratif en général, et dans notre cas en particulier, c'est un espace de création qui va créer des objets, des supports innovants, créatifs, et qui vont nous permettre de communiquer autour du changement climatique, autour des enjeux environnementaux en général, pour faire vraiment de la médiation scientifique. Voilà, autour d'objets et de supports innovants.
Donc c'est vraiment intéresser les gens à cette question du réchauffement et de l'environnement en leur faisant mettre vraiment la main à la pâte aussi. Hein.
Voilà, exactement, puisque c'est un, comme je disais, c'est un lieu qui est ouvert, donc n'importe quel porteur de projet peut au sein du lab apporter ses idées ou un début d'idée, et c'est la force du collectif en fait, les compétences de toutes les personnes qui viendront participer à des ateliers qui feront en sorte qu'on pourra créer ensemble ces nouveaux supports.
Alors c'est un grand projet, Luc Jacquet, avec donc ce lab et ce film qui va s'appeler La glace et le ciel, sorti prévu fin 2015 avec le personnage central qu'on vient d'entendre, Claude Lorius. C'est un des pionniers vraiment de la découverte du réchauffement climatique. Hein.
Oui, Claude et ses collaborateurs ont été les premiers en 85 et 87 à publier des articles dans Nature qui sont véritablement des articles historiques, hein, puisque c'est eux les premiers qui mettent en évidence la relation intime entre le dioxyde de carbone issu des émissions humaines et la température. C'est eux qui font véritablement les premiers la preuve de cette relation entre l'activité humaine et le climat. C'est effectivement un personnage extrêmement important dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de l'humanité.
Voilà, il est parti pendant une année en Antarctique en 1957. Hein, il faut imaginer les moyens de l'époque pour justement étudier les changements climatiques déjà à l'époque. Alors Luc Jacquet, le film, le lab, quel est le lien entre les deux pour qu'on comprenne bien votre démarche ?
On est vraiment dans une démarche de transmission, hein, à la suite de Claude et son désir de faire passer le message après toutes ces années d'aventure, de recherche, de science. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir de l'ornière dans laquelle on est sur ces questions climatiques, où on est sur un message un peu angoissant, mortifère, voire désespérant. Et je crois que moi, j'ai très envie de me tourner vers les jeunes pour leur donner les moyens, avec leurs outils d'expression à eux et nos savoir-faire, qui sont les métiers de l'image, mais qui sont aussi les métiers de la passation de la science, leur donner la parole pour qu'ils puissent trouver de nouvelles manières, des manières qui marchent, malheureusement, pour que chacun s'approprie tout ça.
Ouais, mais ça veut dire
je crois que l'émotion, l'art, est un vecteur extraordinaire, puisque le message désespérant est inutile. Et l'émotion est un formidable vecteur, je crois, pour faire avancer les choses et avancer l'humanité.
Mais ça veut dire que le cinéma n'est plus suffisant aujourd'hui pour toucher le grand public? Il faut inventer d'autres objets?
Il faut inventer d'autres objets. Le cinéma, il s'adresse aux gens qui vont au cinéma, mais il y a plein de gens qui ne vont pas au cinéma, en particulier les ados sur ces questions-là. Vraiment des modes de communication aujourd'hui qui sont extrêmement différents. Le cinéma, c'est aussi par essence une culture de la collaboration, donc c'est ce qu'on a voulu reproduire et faire de sorte qu'un jeune qui arrive aujourd'hui avec une idée, une envie de s'exprimer, puisse avoir les outils que nous, on peut lui donner sur, je sais pas, le montage, sur le son, sur la prise de vue, pour qu'il puisse prendre la parole avec des outils qui soient extrêmement performants.
Quand on pense lab, on pense aussi Fab Lab et machines nouvelles comme les imprimantes 3D. Audrey Tondre, qu'est-ce qu'il y aura comme équipement dans ce lab?
Alors, nous, on se rapproche du Fab Lab dans notre aspect ouverture et collaboratif. Donc, c'est un lieu dans lequel c'est la société civile qui vient s'emparer de l'espace pour créer ensemble. Donc, c'est en ça qu'on se rapproche d'un Fab Lab. Après, notre expertise et notre plus-value, elle vient surtout de notre savoir-faire au sein de Wild Touch et des projets qui ont été portés précédemment par cette association. C'est tout ce savoir-faire et cette expérience auprès d'experts scientifiques, mais aussi de raconteurs d'histoires, d'artistes et de professionnels de l'image. Donc c'est toutes ces expertises et ces savoir-faire qu'on va pouvoir trouver au sein du lab. Après, il y aura évidemment un équipement qui va se rapprocher des Fab Labs, mais notre plus-value, elle est plutôt sur le thème et notre propre expertise.
Alors justement, vous êtes ouvert depuis maintenant 2 semaines, hein, dans le quartier de la Bastille. Alors concrètement, les projets en route, ça ressemble ressemble à quoi? Alors, quand on vient dans votre lab et qu'on s'intéresse à l'environnement et au climat, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, on a déjà quelques projets qui sont en cours. On a donc une exposition photo avec des diapositives géantes et rétroéclairées qui ont été fabriquées au sein du lab, avec des systèmes de LED chaud-froid qui permettent de donner un éclairage très particulier à des photos animalières qui viennent nous interroger sur la standardisation de la biodiversité. C'est un projet qui a été d'abord porté par un photographe animalier qui s'appelle Jérôme Bouvier. Mais on a aussi des réflexions en ce moment sur des jeux autour du changement climatique qui vont s'adresser peut-être plus pour certains à des scolaires et des enseignants, dont la forme va être déterminée justement au cours de ces ateliers collectifs qui vont rassembler justement des gens d'horizons différents, autant des experts scientifiques que des pédagogues, des gens de la société civile. Voilà, donc on a des projets de jeux.
Bien, donc on a l'adresse évidemment en lien sur le site de la Tête Carrée. Oui, Lujeke.
Ouais, je voudrais peut-être ajouter qu'on a aussi un formidable projet avec le lab, c'est-à-dire embarquer des jeunes gens qui viendront se former dans le lab, qui viendront apprendre, qui apporteront un projet et qui pourront partir sur le bateau de François Bernard, un bateau polaire qui va aller au Groenland cet été. Et les jeunes pourront embarquer sur le bateau et s'exprimer, raconter les choses de vue pour pouvoir finalement être des ambassadeurs et des témoins. Donc ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Avec ce formidable bateau polaire Atka, qui va prendre la mer dans un mois et qui va être à disposition finalement de tous ces jeunes, de tous ces gens qui auront envie d'initier une prise de parole avec la sensibilité, avec l'émotion autour de la question du réchauffement climatique.
Voilà, donc ce lab environnemental Audrey Tondre dans le quartier de la Bastille. Donc c'est ouvert, c'est vraiment très ouvert au public, c'est évidemment l'objet. Il y a toutes les infos, les coordonnées sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup d'être venu au Salon du Livre.
Merci
pour
à
nous
vous.
En parler. Merci Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la superficie justement des glaces d'hiver de l'Arctique cette année est la plus faible jamais enregistrée depuis le début des observations par satellite en 1979. Superficie de la banquise qui a atteint 14 millions de kilomètres carrés le 25 février, ce qui devrait être le maximum pour l'année, soit 1 million de kilomètres carrés sous la moyenne. Durant les deux premières semaines de mars, les températures sur l'ensemble de l'Arctique ont également été largement au-dessus de la moyenne, jusqu'à 8 à 10 degrés en mer de Barents au nord de la Norvège. Les populations d'abeilles également plus bas en France. L'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs Français, publie ses chiffres en disant la quantité annuelle de miel produit est passée de 32 millions de tonnes à 10 millions seulement, alors que le nombre d'apiculteurs n'a presque pas évolué. Des reines qui meurent prématurément, des butineuses affaiblies et des mâles stériles. Voilà le constat des professionnels. Et puis les orangs-outans utilisent leurs mains pour modifier leurs cris d'alarme. C'est une découverte d'une équipe de scientifiques belges et anglais. Ils ont montré que les grands singes enserraient leur bouche dans leurs mains pour former un cône, une technique unique qu'ils utilisent pour augmenter la portée de leur couinement d'alarme, exécuté en pinçant les lèvres et qui ressemble au son d'un bisou. Une découverte étonnante à voir en vidéo sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, nous sommes en direct du Salon du Livre avec nos invités dans un instant. The Scissors sur France Inter.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Dans notre club des têtes au carré, ici en direct du Salon du Livre, sur le stand France Inter et Radio France, le prix Goncourt 2012, Jérôme Ferrari, mon confrère Sébastien Boller, avec un thriller neuroscientifique, et puis donc des solutions les plus dingues, on verra, pour refroidir le climat, avec vous Valérie Laramée de Tannenberg. Jérôme Ferrari, 2012, le sermon de la chute de Rome, c'est votre prix Goncourt, et donc vous revenez avec Le Principe, ce roman qui sort chez Actes Sud. Et derrière ce roman, c'est tout un pan de l'histoire hein, de la physique du début du XXe siècle avec un personnage central, Werner Heisenberg, qui a reçu en 1932 le prix Nobel de physique comme fondateur de la mécanique quantique. Et pourtant, un nom beaucoup moins connu pour le grand public que celui d'Einstein.
Oui, il est assez connu en Allemagne, mais en France, il est pas très très connu, Heisenberg.
Pourquoi, à votre avis, d'ailleurs ?
Je sais pas, parce que dans la mythologie scientifique, on préfère, je sais pas, avoir une espèce d'icône Einstein. Einstein faisait bien l'affaire. Et je sais pas, tout cet aspect collectif, pour moi, c'est une aventure collective, l'histoire de la physique dans les années 20. Et c'est peut-être moins correspondant à l'idéologie...
C'est vrai. Votre livre est sorti en Allemagne, d'ailleurs, simultanément.
Oui. Ouais.
Quel a été l'accueil là-bas ? Est-ce que, justement, on a une affinité, une perception très différente de la mécanique quantique grâce à Heisenberg ?
Il y a... D'abord, Heisenberg est plus connu, mais ce qui est curieux, c'est que, alors qu'en France, on m'a plus posé des questions sur le rôle de Heisenberg pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont plus été sensibles à l'aspect réflexion sur le langage et la poésie qu'il y a dans le roman.
Ce qui vous intéresse plus, non ?
Ça m'intéresse plus, oui. Et j'ai l'impression que les Allemands ont donc une espèce de tropisme plus métaphysique que les Français. Bon. Puis il y a des choses dont ils préfèrent pas parler.
Oui, j'imagine, effectivement. Bon, je vous préviens tout de suite, j'aurai des questions dans les deux domaines. En tout cas, ce roman qui démarre en 1924 à Helgoland. Alors, c'est un archipel de la mer du Nord. Alors, c'est un lieu de révélation pour Heisenberg. Et ça, c'est toujours intéressant d'en parler dans la tête des génies, ce qui se passe à un moment. C'est-à-dire, il y a une étincelle, et pour lui, ça se passe là-bas.
À moi, en tant que lecteur, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, la psychologie de la découverte scientifique. Il faisait une rhinite allergique très virulente, et il est allé sur Helgoland parce qu'il n'y a pas de pollen. Et une nuit, il a trouvé les matrices de la mécanique quantique, et il décrit son expérience comme celle d'un dévoilement, d'une espèce de révélation qui le pousse à passer toute la nuit dehors à regarder la mer.
Sébastien Boller, est-ce que les neurosciences expliquent justement ce moment, cette étincelle, ce coup de génie que certains personnages, parfois, arrivent à avoir ?
À votre avis ? Alors, oui.
Les neurosciences ont toujours des réponses à ce type de questions.
Les neurosciences, effectivement, permettent de décortiquer des étapes de la découverte et des moments où on a ces sensations d'éblouissement et le fameux moment de l'eureka, on sait aujourd'hui par exemple que pour faire une découverte sur l'ordre de l'intuition comme ça, il faut commencer par beaucoup travailler, beaucoup ingurgiter de notions et puis à un moment faire complètement autre chose, se mettre au repos, et on a vu que certaines parties de notre cerveau, notamment à l'avant, le cortex frontal, continue à travailler même quand on n'y pense pas, et qu'il faut ce moment d'inaction pour que cette partie qui est une espèce de super ordinateur mais qui travaille sur un mode inconscient, d'un seul coup, au moment où on n'y pense plus du tout, livre ce qui semble parachuter du ciel, mais en fait le résultat d'un processus délibératif interne.
Ouais, Jérôme Ferrari.
Poincaré raconte des moments où il découvre quelque chose sur un sujet alors qu'il n'est pas en train de penser à ce sujet-là. Ouais. Il le décrit avec assez de précision. Ouais.
Et donc ça se passe en 1924 pour Heisenberg. C'est là qu'il a pu regarder par-dessus l'épaule de Dieu. Ça, c'est une magnifique expression. Elle est de lui d'ailleurs, je crois.
Elle est de lui, oui.
Elle n'est pas de vous, hein,
non,
c'est dommage.
Elle n'est pas de moi, je crois que je ne l'aurais jamais trouvé. Il a dit ça. sa femme vers la fin de sa vie. Il a dit qu'il était heureux d'avoir pu de temps en temps regarder par-dessus l'épaule de Dieu au travail. Je suis même pas sûr qu'il était croyant. Hein. Je pense que c'est simplement une forme de métaphore pour renvoyer à cette expérience de soulever le voile sur la connexion entre les choses.
Alors, qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
J'ai l'impression que les gens qui ont fait, qui se sont occupés de physique atomique dans les années 20 ont tous eu un certain penchant au mysticisme. Même Pauli d'ailleurs, qui était par exemple en correspondance avec Carl Gustav Jung et Oppenheimer. Ce qu'ils voient, c'est la simplicité. Je crois que ce qui apparaît, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ont une masse de données, mais d'une complexité épouvantable, qui ne veulent rien dire. Et d'un coup, ce qu'ils voient, c'est une connexion dans laquelle tout ça se met en ordre. Et Heisenberg écrit qu'il a cette sensation-là, non seulement quand il découvre que toute une complexité se résout avec une forme mathématique simple, mais aussi quand il écoute de la musique, par exemple. Dans son autobiographie, il y a une très belle, un très, très beau souvenir qu'il a à 20 ans en écoutant la chaconne de Bach, et où il a l'impression qu'après un moment de désespoir, en 1920, qu'il entend l'appel d'un ordre central. C'est très mystique.
Ouais. Et il y a des choses qui se passent autour de l'atome aussi. Parlons nature et parlons physique, mais c'est ça aussi qui se passe dans cette révélation pour lui.
C'est l'idée, mais ça, c'est quelque chose qui était, je pense, un de ses penchants. C'est l'idée qu'il a assez tôt que l'atome n'est pas un substrat matériel. Et que, d'ailleurs, j'ai entendu plus tard une émission où il le dit clairement, et que l'atome cesse de venir de Démocrite pour se rattacher à Platon. Et être une forme idéale mathématique et pas quelque chose de... pas un petit morceau de matière.
En tout cas, 3 ans plus tard, donc, Heisenberg va accoucher de son principe d'incertitude, donc énoncé en 1927. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est quelque chose qui a beaucoup opposé les physiciens dans les années 20, et il y a eu cette opposition Heisenberg-Einstein très clairement sur ce sujet-là.
Bohr-Einstein surtout, parce que c'était Bohr qui portait le... Mais c'était autour du principe d'indétermination, au congrès Solvay de 1927. Et tous les matins, Einstein arrivait avec une objection qui permettait de lever les inégalités de Heisenberg, et Bohr expliquait qu'il y avait une erreur qu'il n'avait pas vue.
Il y a ce document merveilleux, il y a cette photo de 1927, justement, on les voit tous, photo hallucinante, parce que c'est la crème des génies de la physique à cette époque-là, et ils sont tous sur cette photo, justement, conférence.
Et il y a Heisenberg, Pauli et Dirac qui ont 25 ans.
C'est ça, ils sont tout jeunots, il y a cette jeunesse, cette fulgurance aussi de la jeunesse, c'est ça qui est incroyable.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, mais au-delà de l'intérêt intellectuel que j'ai toujours eu pour la physique quantique, cet aspect humain, cette profusion miraculeuse et cette jeunesse, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, oui.
Ouais. Le principe d'incertitude, Jérôme Ferrari, s'il fallait le résumer en quelques mots aussi pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut en dire, alors, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet scientifique là.
Alors, bon, moi, j'aime pas beaucoup utiliser un matériau scientifique pour en faire une espèce de métaphore littéraire qui correspond plus à rien, et donc j'ai essayé d'être assez précis. Et là, je me le suis permis parce que je sais que Heisenberg lui-même présente, quand il en parle d'un point de vue conceptuel et pas mathématique, le principe comme un problème de langage.
Ouais.
Et il explique que la limitation de notre connaissance sur la position ou la vitesse n'est pas une limitation de connaissance, mais le signe qu'on a affaire à des objets étranges dont on peut se former aucune image et qu'on ne peut pas décrire dans les concepts qui sont ceux du langage commun. Et ça m'intéresse, et c'est un problème qui est éminemment aussi un problème littéraire. La question étant, comment faire avec un outil inadéquat, le langage que je possède et que je ne peux pas dépasser parce qu'il structure ma pensée, comment faire pour décrire une réalité qui ne peut pas être décrite. En fait, c'est comment dire ce qu'on ne peut pas dire.
Voilà, autour de la physique quantique, parce que c'est ça aussi l'idée, évidemment, sur cette découverte de cette nouvelle physique, parce que là, on est dans une révolution totale autour de la nature et on passe dans un autre monde.
Total, et j'ai souvent eu l'impression que c'était pas un hasard s'il y avait eu tant de très très jeunes gens qui avaient participé à cette révolution.
Ouais.
Je sais que Planck était assez conservateur et qu'il était il a longtemps rêvé de se débarrasser de sa constante.
Valérie Lhermé de Tannenberg.
Finalement, est-ce que l'équipe d'Heisenberg a réussi à élaborer la bombe atomique nazie ou est-ce qu'ils ont échoué près du but?
Alors, donc ça c'est le projet Uranium.
Oui. Alors au début de la guerre, Heisenberg a été appelé un an après la découverte de la fission pour un projet Uranium avec d'autres scientifiques. Et je sais que c'est un sujet très très polémique, mais moi d'après ce que j'ai lu, il est absolument impossible en regardant les faits de se faire une opinion autorisée. Ce qu'on sait à coup sûr, c'est qu'en 45, quand les Américains arrivent, les Allemands n'ont toujours pas réussi à mettre au point un réacteur. Et donc, on peut pas savoir si ils ont été incompétents, si leur organisation était si mauvaise qu'ils n'ont pas réussi à faire cette première étape, ou bien s'ils travaillaient sur un réacteur. Et on ne peut pas non plus savoir s'ils travaillaient sur un réacteur civil ou s'ils voulaient obtenir du plutonium pour la bombe. Moi, j'ai le sentiment que Heisenberg travaillait sur un réacteur parce que dans les enregistrements de Farm Hall en 45, quand les Anglais les ont enregistrés dans le cottage où ils avaient mis les physiciens allemands, Heisenberg, la nuit du 6 août, dit « Je suis très heureux d'avoir travaillé sur un réacteur et pas sur une, bombe. Oui. » Mais on peut toujours imaginer que d'autres équipes le faisaient. Et moi, je crois que non. Et ce qui emporte ma conviction n'est même pas l'analyse de pièces historiques, parce que c'est indécidable, mais c'est un texte que Heisenberg a écrit pour lui-même en 1942, qui a été publié au Seuil, je crois, sous le titre Le manuscrit de 1942. Et moi, j'arrive pas à croire que la personne qui a écrit ce texte était en train d'essayer de donner la bombe atomique à Hitler.
Oui, parce qu'il fait allusion à la Rose Blanche, justement. Il fait allusion à la Rose Blanche, qui est un mouvement allemand de résistance anti-nazi.
Et il écrit en toutes lettres qu'il ne faut jamais oublier, même en temps de guerre, que nos devoirs moraux nous lient à l'humanité et pas à, pas à la nation à laquelle on appartient. Enfin, je comprends que le texte ait été écrit dans la discrétion.
Oui. Et puis il y a le narrateur évidemment de ce livre, qui est un ancien étudiant qui a subi une humiliation cuisante à cause d'Heisenberg, mais beaucoup plus tard évidemment, hein, c'est dans les années 80 là, en devant commenter un passage de physique et philosophie. C'est un souvenir personnel, Jérôme Ferrari?
Non, c'est pas grave. J'ai étudié physique et philosophie pendant mes études de philo, mais je me suis jamais fait massacrer comme ça à un oral. J'ai juste mis en scène ce qui aurait été certainement un de mes pires cauchemars.
Voilà, exactement, et c'est ce qu'on retrouve dans ce roman. Heisenberg qui a fait de la prison évidemment, hein, rattrapé par les alliés.
La prison, non,
Heisenberg.
Ils ont été arrêtés.
Dans un camp anglais.
Mais ils n'étaient pas dans un camp, ils étaient dans un manoir où ils n'étaient pas du tout enfermés. Ils avaient donné leur parole d'honneur de ne pas, de pas sortir, six mois.
Et voilà, c'est ça. Ils ont été quand même réunis pour évidemment les
actes commis. Ils avaient des cours de tennis.
C'est vrai qu'il y avait, pire quand même. C'est,
comme condition de détention, il y avait pire, oui.
Autour donc de ce projet Uranium, Heisenberg, Étienne Klein, qui est souvent avec vous en tout cas pour commenter la sortie de ce livre, Jérôme Ferrari.
Et à qui je dois tout ce que je sais en physique quantique.
Et ce livre, pareil, Le Principe, c'est un roman aux éditions Actes Sud.
Sous prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal. Au lieu de ça, Alice trébuchait ses talles. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon. Son humeur prit la taille d'un melon. Gêné, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte-bonheur jamais vue de la plupart. Il fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. Avec la porte on peut pas se blottir, mais Alice pouvait aller venir s'en sortir. Se fâcher, la fermer à double tour, l'appeler, pas de soucis si se perdent les clés. Contre l'improviste, y a une sonnette, besoin de liberté, elle peut rester ouverte. Mais comme le bonheur était dans ses cordes, Alice n'a vu que midi à sa porte. Après avoir pleuré un autre fleuve, la voilà repartie dans la forêt seule. Ce chapeau sur pattes pouvait courir, fallait pas réfléchir avant d'offrir. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
Ibrahim Malouf et Oxpo Puccino sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
La suite de notre club avec Isabelle Tissingen qui nous a rejoint. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France et puis Alissa Émingil, membre du jury étudiant du prix de l'essai. Bonjour Alissa.
Bonjour.
Donc c'est vous qui vous êtes concertée avec tous vos camarades pour choisir un ouvrage autour de l'air et du climat. On en parlera avec vous tout à l'heure. Et votre choix s'est donc porté sur ce livre Scénario d'avenir signé par Valérie Laramé-Tannenberg qui est avec nous et Bertrand Guillaume. Jérôme Ferrari est resté avec nous et Sébastien Boller, c'est le moment de découvrir votre roman Neuroland qui paraît, c'est un thriller aux éditions Robert Laffont et qui donc va emmener le lecteur dans la transparence du cerveau avec une machine assez redoutable, capable de lire dans nos pensées. C'est un thriller donc pour parler de neurosciences, ça c'est un genre littéraire qui vous semblait intéressant pour explorer ce champ scientifique?
Ouais, parce que le thriller c'est l'art de faire passer des émotions, une intrigue et un suspense, c'est la définition. Hein. Il faut qu'on ait envie de tourner la page pour voir ce qui suit. Et je pense que c'est un outil fantastique pour faire passer des concepts scientifiques. On peut mettre une aventure palpitante dans un laboratoire, dans des centres de recherche avec des scanners qui, comme je le décris, font 45 tonnes, manient de l'hélium liquide à moins de 71 degrés, parce que bah, ce sont les personnages qui portent l'action et parce que l'enjeu, c'est finalement ce qu'on a dans la tête, notre cerveau et toutes les découvertes en neurosciences qui nous éclairent sur notre fonctionnement mental et la façon dont cette matière grise peut être exploitée aujourd'hui par des puissances qui détiennent ce pouvoir technologique.
Ouais, et comme d'ailleurs chez Jérôme Ferrari, c'est aussi la jeunesse scientifique là, qui est mise en avant quand même, avec des idées assez géniales et novatrices hein, autour des neurosciences.
Alors voilà, il y a deux jeunes qui finalement s'articule autour de cette invention. Hein. Cette invention qui d'ailleurs n'est pas très loin de voir le jour à mon avis. C'est une question de décennies. De premiers résultats sont déjà tangibles. Et effectivement, deux jeunes dans un master de neurosciences extrêmement coté à Paris qui essayent d'accéder justement à ce laboratoire où on va percer finalement le Graal de nos pensées. Oui. Et chacun va le faire avec une optique bien particulière, chacun pour ses objectifs personnels qui sont à l'opposé l'un de l'autre.
Voilà, Isabelle Tissingen, justement ce laboratoire dans ce roman c'est Neuroland et il est situé sur le plateau de Saclay. Alors, c'est l'endroit européen des neurosciences, hein, Sébastien. Donc c'est vraiment l'endroit rêvé pour étudier le cerveau et peut-être lire dans la pensée des individus.
Non mais c'est sûr que Saclay est de toute façon toute l'Île-de-France, hein. Il y a une concentration scientifique, notamment sur les neurosciences, qui est absolument exceptionnelle. C'est toujours difficile, les indicateurs pour rendre compte de l'activité scientifique, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Île-de-France hein, est la première place scientifique européenne de très très loin, et parmi les toutes premières places mondiales. Et Saclay, dans cet ensemble, est un endroit avec une concentration absolument exceptionnelle. Mais il y en a d'autres. Il y a la montagne Sainte-Geneviève, il y a d'autres endroits. Toute l'Île-de-France est riche de cette chose absolument formidable qui est l'activité scientifique et les scientifiques, et en particulier les jeunes scientifiques. C'est absolument indispensable qu'on ait des jeunes qui refassent de la science.
Neuroland, Sébastien, c'est donc un lieu de science, évidemment, qui est à la pointe au sein du commissariat à l'énergie atomique dans ce roman, mais c'est aussi un lieu de pouvoir, hein. C'est ce qu'on comprend aussi, puisque c'est là précisément qu'on peut lire dans les pensées des autres.
Voilà, c'est un lieu de pouvoir parce que ce thriller montre comment le pouvoir politique et le pouvoir scientifique, et c'est pas la première fois que ça se produit, peuvent finalement marcher main dans la main avec des quiproquos, avec des malentendus.
Oui.
Les grandes découvertes scientifiques ont souvent été boostées par les situations de conflit. Et là, on découvre comment, dans un contexte de menace terroriste, un gouvernement qui cherche à extraire les pensées d'un suspect tout en respectant le droit de la garde à vue, en évitant la torture, peut être amené à approcher les milieux scientifiques, à approcher ces espèces de constructions qui sont les nouvelles pyramides de notre nouvel âge, qui sont ces scanners qui font 50 tonnes, qui manipulent les nanotechnologies, qui manipulent la mécanique quantique pour voir dans notre cerveau, mais comment un gouvernement animé de bonnes intentions au départ, ouais, peut décider finalement d'exploiter ces avancées scientifiques à des fins de rétorsion et de ce qu'on pourrait appeler un viol de l'esprit.
Voilà, puisque l'idée c'est d'extraire les pensées des individus avec donc ces deux jeunes scientifiques qui sont vraiment les opposés. Vous faites deux portraits de scientifiques donc oui, exactement contraires, avec l'un très ambitieux, Franck, qui lui donc invente cette méthode d'imagerie par diffusion. Il espère bien d'ailleurs certainement un prix Nobel hein, autour de cette invention. Et puis l'autre scientifique c'est Vincent Carra, alors qui lui travaille sur Alzheimer. Et là aussi, c'est évidemment un thème incontournable des neurosciences aujourd'hui. Un chercheur et puis aussi le fils d'une mère qui est atteinte par cette maladie. Hein.
Voilà, donc comme bien des romans, à mon avis, roman, c'est une façon d'explorer les rapports entre le bien et le mal.
Oui.
Et ce sont les enjeux qui changent en fonction des époques. Ici, effectivement, vous avez l'ange noir qui est donc Franck Corsa, qui infiltre les milieux politiques, qui récupère ses inventions et dont le but est d'acquérir du pouvoir, hein, en créant une espèce d'unité de surveillance antiterroriste qui se doterait de ses pouvoirs de lecture dans les pensées. Et à l'opposé, il y a le jeune génie, plein d'inspiration, plein d'intuition, qui lui essaie d'utiliser ses connaissances pour sauver sa maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et pour, du même coup, aider toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. En fait, ce sont des visions un peu travesties du bien et du mal, parce que chacun a ses propres intérêts dans l'histoire. On ne peut pas dire que la recherche du pouvoir en soi soit un mal, ni que vouloir soigner sa maman soit l'expression propre du bien. Chacun obéit à ses propres motivations. En fait, l'enjeu éthique, le questionnement de fond sur le bien ou sur le mal, il vient dans la parole d'un vieux professeur qui se pose la question. Si un jour, vos pensées, Mathieu, s'affichaient sur votre front, que resterait-il du concept du bien et du mal, de la morale et de la liberté? Et c'est ce questionnement finalement que j'aimerais porter, sachant que notre choix de notre liberté est aussi celle de mentir, dans certains cas, ou ouais, de dire la vérité.
Jérôme Ferrari, les neurosciences aussi, hein, c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup, je crois.
J'ai découvert ça il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Avec un grand enthousiasme, et je les ai beaucoup utilisés dans les cours de philo, d'autant que ça plaît énormément aux élèves. C'est plein d'anecdotes, les textes sont en général en plus très vivants, très bien écrits et très stimulants.
Ouais.
J'ai bien l'impression qu'on a affaire à un repère de matérialiste, mais ça, je trouve ça stimulant quand même. Et j'aimerais bien savoir dans les mécanismes de lecture des pensées que vous décrivez, lesquels sont réels et lesquels sont inventés. Si, il y en a des inventés.
Oui, il y a un petit peu d'invention. Disons que je franchis le petit pas en plus qui manque pour qu'on en arrive là. Mais de premières expériences permettent effectivement de savoir, de deviner quelle est votre pensée parmi une série de pensées qu'on aura photographiées dans votre cerveau au préalable. Voilà.
Ouais.
Donc, si maintenant je mettais un scanner autour de votre tête pour essayer de voir à quoi vous pensiez, je ne pourrais pas le savoir. Mais si auparavant j'observais comment votre cerveau réagit à une série de pensées, je pourrais ensuite deviner laquelle vous avez en ce moment-là. Et tout l'enjeu, ça va être de perfectionner ces méthodes. On arrive déjà dans certains laboratoires à reconstituer comment votre cerveau voit un film, et à reconstituer le film à partir de l'image de votre cerveau. Il y a des chercheurs qui extraient certains éléments de vos rêves. Ça reste encore grossier. Mais simplement, je voudrais dire une chose. Il y a 50 ans, les ordinateurs prenaient la taille d'un immeuble. Aujourd'hui, c'est la taille d'un smartphone. Donc, il ne fait absolument aucun doute, je crois, que d'ici 50 ans, nous aurons des appareils qui permettront d'extraire des choses beaucoup plus précises de notre tête.
Isabelle Tissin-Jean, les comités d'éthique ont du boulot hein, quand même dans les années qui viennent.
Il y a des
grosses questions sociétales qui se posent là.
Mais c'est des questions absolument majeures. Hein. Enfin, la question de les conséquences de la découverte scientifique, c'est-à-dire que la découverte scientifique en soi est quelque chose qu'il faut poursuivre parce que c'est la connaissance et une valeur émancipatrice. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on en fait? Et là, effectivement, bien mal, on retrouve des questions éternelles. Et c'est des questions extrêmement compliquées parce que l'activité scientifique devient de plus en plus complexe. Vous disiez matérialisme sur les neurosciences. En fait, certains neuroscientifiques redécouvrent l'inconscient. Ils montrent que y a un truc qui ressemble bien à l'inconscient.
Donc, Lionel Nakache,
tout
par
ça,
exemple,
c'est
beaucoup, hein.
Tout ça, c'est d'une complexité terrible et ça pose, par exemple, le débat sur la fin de vie. c'est pas du tout quelque chose de simple à trancher, indépendamment des positions éthiques. C'est aussi un débat incroyablement technique. Donc oui, il y a des questions éthiques majeures. C'est pour ça que moi, j'essaye vraiment beaucoup de travailler sur le dialogue science-société. On y reviendra tout à l'heure. Mais essayer de faire en sorte que la communauté scientifique ne soit pas repliée sur elle-même, mais qu'elle s'ouvre vraiment dans le dialogue avec nos concitoyens, c'est indispensable. Parce que oui, il y a des questions politiques extrêmement lourdes derrière.
Et puis un tout petit mot sur la scène finale, sans la dévoiler évidemment, de Neuroland, dans le scanner géant qui est absolument formidable. Vous imaginez donc des microparticules de fer logées dans le corps des protagonistes avec le jeu de l'électroaimant. C'est absolument génial. On se dit qu'il faudrait vraiment l'adapter au cinéma, ce roman déjà, Sébastien Mollère.
Peut-être.
Il y a plein de choses intéressantes. Oui,
ça s'y prête très bien, effectivement.
Ça s'y prête pas mal du tout. Oui, oui. C'est Neuroland, thriller, donc, que vous publiez aux éditions Robert Laffont. À l'instant sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Voilà, suite et fin de notre club, toujours avec le public du Salon du Livre, qui est là en pleine forme. Ça fait du bien d'applaudir, ça nous réchauffe en fait. On a très froid cet après-midi, mais heureusement vous êtes là, nombreux avec nos invités. Jérôme Ferrari, donc avec Le Principe chez Actes Sud, Sébastien Mollère pour Neuroland chez Robert Laffont, et donc Valérie Laramé-Tannenberg, scénario d'avenir, futur possible du climat et de la technologie, c'est chez Armand Collin. Nous aurons rejoint donc Isabelle Thys-Saint-Jean, vice-présidente du Conseil Régional d'Île-de-France et présidente du Groupement d'Intérêt Public Génopole, et puis Alissa Émingile, membre du jury étudiant. C'est donc vous, Alissa, avec vos camarades qui avez choisi. Vous étiez 11 universités, hein, c'est ça ?
11 universités différentes et des cursus et des stades d'avancement aussi différents.
Ouais, et vous deviez choisir un ouvrage parmi les 5 derniers,
hein ? Parmi les 5 qui avaient été prélectionnés. Pareil, avec des domaines très différents, de l'économie à la géo-ingénierie, donc.
Autour de l'air et du climat.
De l'air et du climat.
C'était les thèmes. Isabelle Thys-Saint-Jean, donc prix de l'essai étudiant, qui s'inscrit donc cette année évidemment dans le cadre de la conférence sur le climat. C'était important pour vous aussi de diriger ce prix sur cette thématique, j'imagine ?
Oui, tout à fait. D'abord, c'est important qu'il y ait un prix étudiant, parce que je crois que les étudiants ont un regard particulier. Et quand on veut alerter sur une question politique, quelle qu'elle soit, c'est important de prendre le regard étudiant pour savoir ce qui va les convaincre, les intéresser. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et évidemment, l'air et le climat, j'essaye dans mon action à la région de faire beaucoup de choses sur ces questions-là. Il y a vraiment nécessité d'agir, à la fois pour financer la recherche, parce que notre avenir, il est bien dans les laboratoires en partie. Il faut modifier nos comportements, mais il est aussi dans les laboratoires. Mmh. Et puis aussi pour sensibiliser tout le monde, et en particulier les jeunes. J'ai pris l'air et le climat comme année thématique pour tous mes dispositifs. Et pour le prix étudiant de l'essai, on a choisi l'air et le climat avec donc un parrain qui est Cédric Villani, le parrain du prix étudiant, et puis Jean Jouzel cette année, qui a accepté d'être à nos côtés, ouais, et d'animer un certain nombre de réunions, et que je voudrais vraiment remercier.
Alissa, est-ce que la question du climat, ça intéresse votre génération aujourd'hui, ou franchement ça vous barbe un petit peu les discours qu'on tient sur les années pas très réjouissantes à venir a priori ?
Non, je pense que ça intéresse beaucoup ma génération. Il y en a beaucoup qui aiment réagir et qui s'intéressent au sujet, qui sont submergés d'informations assez floues et parfois contradictoires, ouais, et qui ont envie d'avoir des informations plus précises justement sur le sujet et de se faire leur propre, ouais, opinion.
Alors pourquoi ce choix ? Présentez-nous, donc faites-nous le pitch du livre que vous avez sélectionné, donc Scénario d'avenir chez Armand Collin, qui est sorti en 2012 d'ailleurs.
Alors, Scénario d'avenir, c'est un essai qui nous a beaucoup plu et touché, qui explore les options possibles pour contrer techniquement le réchauffement climatique. Donc, cette idée séduisante et fascinante de contrer le réchauffement climatique, ouais, par des innovations techniques, et qui, pour être séduisante, n'en est pas forcément convaincante. Donc c'est ce que démontrent Valérie Laramé-Tannenberg et Bertrand Guillaume justement, ouais, dans leur ouvrage. Et ils nous donnent à voir de façon très concrète et de façon très didactique les options de géo-ingénierie qui sont envisagées à l'heure actuelle, qui sont éventuellement à la mode, et pourquoi on peut avoir des doutes encore par rapport à celle-ci.
Ouais, très bon résumé. Alors là, vraiment, chapeau, bravo, parce que c'était exactement la thématique du livre, Valérie Laramé-Tannenberg, avec donc cet ouvrage. D'abord, je précise que vous êtes rédacteur en chef du journal de l'environnement, spécialiste des questions climatiques. Alors, il y a effectivement cette partie de la géo-ingénierie, qui est un domaine encore peu connu du grand public, même si ces idées, elles, le sont un petit peu plus. Il y a des choses tellement farfelues, a priori, qu'on se demande si on n'est pas dans un roman de fiction, là aussi. Hein.
Malheureusement, non. Il y a un certain nombre de chercheurs, plus ou moins fous, mais plus ou moins riches, qui ont développé des idées qui peuvent sembler hallucinantes. Alors, les plus connues d'entre elles sont la brumisation de l'atmosphère par des particules de sulfate. En gros, c'est comment reconstituer les effets d'une éruption volcanique majeure, ce qui permettrait, en assombrissant un petit peu l'atmosphère, de faire chuter de quelques degrés le réchauffement. Il peut y avoir aussi des trucs un petit peu plus rigolos. On avait recensé avec Bertrand le fait qu'un couple de chercheurs iraniens avait imaginé augmenter l'albédo de la Terre en peignant toutes les villes en blanc.
Qu'est-ce que c'est l'albédo ?
Alors l'albédo, c'est la capacité de la planète naturelle à renvoyer vers l'atmosphère, vers la haute atmosphère et le cosmos, une partie du spectre solaire, une partie de l'énergie solaire. Mmh. Et donc en faisant la Terre plus blanche, on décuple cette possibilité. Le problème, c'est qu'on a fait des petits calculs de point de table.
Il n'y a pas assez de peinture.
Il n'y a pas assez de peinture blanche. C'est ça le problème. Donc ça ne marche pas. Donc il y a d'autres chercheurs qui ont imaginé développer une flotte de trimarans radioguidés qui permettrait de blanchir les nuages cette fois. Mais d'autres chercheurs un peu taquins ont vu que ça ne marcherait que dans une petite partie du Pacifique, donc c'était très insuffisant.
Ouais. Puisque notre thématique climatique aujourd'hui sur France Inter, c'est la montée des eaux, est-ce que dans ce domaine, la géo-ingénierie propose des alternatives ou pas ?
Non, pas vraiment. Je crois que la seule alternative crédible, c'est l'adaptation aux conséquences des changements climatiques, c'est-à-dire préparer la montée des eaux qui est inéluctable. En faisant des digues, ça, les Néerlandais nous ont montré le chemin depuis un demi-siècle maintenant, ouais. Mais aussi en déménageant des infrastructures et en concevant les villes autrement qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Ouais. Isabelle Tissin-Jean, puisque l'air et le climat étaient au cœur de cette thématique, hein, du prix de l'essai étudiant, Paris qui a remporté donc, il y a deux jours la palme pendant quelques heures de la ville la plus polluée du monde, franchement, on a honte, non ?
Ouais, enfin c'est un problème qui dépasse Paris. Hein. C'est le problème, c'est que c'est bien au-delà de Paris.
C'est quand même à Paris que ça s'est passé,
oui,
là pour
oui,
le coup.
Oui, hein. Mais il y a quand même une prise de conscience globale. Moi, ce qui me frappe, hein, c'est sûr, c'est un problème majeur. Il faut alerter les nouvelles générations. Il faut qu'on se mobilise tous collectivement. Je trouve que enfin, ça y est, on commence à prendre conscience de tout ça. On aurait dû prendre conscience de tout ça dans les années 70. Hein, je veux dire, dès les années 70, un certain nombre de gens alertaient là-dessus. Moi, je sens quand même une mobilisation aujourd'hui, parce que moi, c'est des questions qui m'intéressent depuis toujours, hein, depuis que je suis venue à la conscience, c'est des questions qui m'intéressent. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation quand même beaucoup, beaucoup plus importante. Oui, c'est tard. Oui, il faut que tous les acteurs politiques et citoyens se mobilisent, et scientifiques, pour essayer de traiter cette question-là. C'est vrai que ce sont des problèmes qui sont vraiment devant nous, ouais. Mais les choses avancent et encore une fois, dans les laboratoires, il y a le mieux et le pire, mais il y a peut-être aussi le mieux, hein, sur...
Alors, est-ce que ces idées ont été testées justement de géo-ingénierie ou on n'est que sur des idées sur le papier là en ce moment ?
Certaines ont été testées, puisque une partie de ces recherches vient quand même de la recherche militaire. Et les Américains, les Russes et les Chinois ont déjà fait des expériences grandeur nature de modification de la météo. Hein, on se souvient de l'opération Popeye en 1966 pendant la guerre du Vietnam, où les Américains ont fait pleuvoir sur la piste Ho Chi Minh pour essayer de ralentir les mouvements de l'armée nord-vietnamienne. Ça a marché, il a plus plu, mais ça n'a pas marché parce que les Américains ont perdu. Récemment, les chercheurs britanniques ont voulu tester une opération de brumisation de l'atmosphère. Tout était prêt, mais ça n'a pas marché parce que l'un des scientifiques avait barboté les brevets en quelque sorte. Donc, ses petits camarades ont jugé bon d'arrêter les frais. Ce qui est plus inquiétant, me semble-t-il, c'est qu'il y a certaines entreprises aux États-Unis qui affichent une certaine politique commerciale. Et ils disent, voilà, nous sommes prêts à faire ça, nous avons la technologie pour le faire. Et ces entreprises sont soutenues par des gens extrêmement puissants, je pense à Bill Gates en particulier. Et moi, ma crainte, c'est que finalement, le pouvoir politique ne s'étant pas emparé de cette question, n'ayant pas compris que le changement climatique, c'était un projet de société, que finalement, on arrive à un moment où il faudra agir dans l'urgence extrême, et que ces entreprises se voient délivrer en quelque sorte un passe-droit pour rafraîchir le climat.
Et ça ne résout rien des causes. Et ça ne résout rien des causes.
Ça ne résout rien des causes et ça ne change pas les conséquences puisque l'acidification des océans se fera toujours.
Oui. Sébastien, pour terminer.
J'ai cru ressentir dans votre propos que les solutions technologiques pour pallier le réchauffement climatique n'étaient pas forcément la bonne solution. On parlait d'illuminés qui jouent aux apprentis sorciers. Est-ce que c'est une façon de dire qu'il faut arrêter de croire dans la science pour résoudre les problèmes de la science ou de la technologie ?
Pas du tout. Pas du tout, il suffit simplement de ne pas se tromper de science et de ne pas se tromper de projet. Je crois qu'aujourd'hui, les gens du GIEC en particulier nous démontrent à chaque rapport que les solutions techniques et technologiques existent. Elles sont moins spectaculaires, c'est une fois encore refaire de l'urbanisme autrement, changer les transports, se chauffer autrement. Mais c'est vrai que ça n'attire pas les crédits des milliardaires.
Voilà, scénario d'avenir, donc prix essai étudiant 2015, Isabelle Tissin-Jean, et vous allez remettre le prix dans quelques minutes. Là.
Dans quelques minutes, voilà, ouais. On vous invite tous sur le stand de l'Île-de-France, voilà. De l'autre côté.
Merci beaucoup en tout cas à tous. Jérôme Ferrari, donc le principe chez Actes Sud, vous avez une rencontre avec le public à 17h et puis une signature ici au Salon du Livre à 16h30 sur le stand d'Actes Sud. Et puis Sébastien, ben là vous filez rencontrer votre public à 15h donc sur le stand Robert Laffont pour faire découvrir Neuroland. La journée autour du climat continue sur France Inter, ce sera un jour dans le monde avec Nicolas Demorand tout à l'heure à 18h10. Quelle économie inventée pour répondre justement au changement climatique ? Merci Alexandre Martin, Stéphane Poitevin et toutes les équipes de Radio France aujourd'hui.